Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 107 et nous sommes en mars 2013. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, épisode numéro 107. Certains d'entre vous auront remarqué que je n'ai pas fait d'épisode la semaine dernière. En fait, je suis un petit peu en retard. Le problème, c'est que j'ai été extrêmement occupé la semaine où j'aurais dû enregistrer, je vais y arriver, l'épisode, et que je suis très occupé également la semaine d'après. Donc ça veut dire que je n'aurai peut-être pas le temps d'en enregistrer un la semaine prochaine, et donc qu'il y aurait eu un mois complet sans Rendez-vous Tech, châtiment que je ne voulais pas vous imposer. Je sais que ça aurait été très très difficile pour certains d'entre vous. Donc je me suis muni de mon micro et de mon enregistreur, et je vais donc vous faire un mini épisode de transition du Rendez-vous Tech, pour pouvoir vous faire patienter jusqu'au retour des épisodes normaux. Ça veut dire que je suis tout seul et qu'on va parler peut-être d'un petit peu moins de choses que d'habitude, ce qui tombe pas tellement plus mal parce qu'il n'y a pas énormément d'actualités, ou en tout cas pas énormément d'actualités vraiment hyper intéressantes. Il y a bien sûr l'annonce du Galaxy S4, il y a le nouveau flux Facebook qu'on va évoquer dans les news et rumeurs. Mais en gros, je pense que ça sera un épisode quand même un petit peu moins long que d'habitude, ne serait-ce que parce que je suis tout seul. Donc, écoutez, je pense qu'on va se lancer immédiatement avec les infos à retenir pour cet épisode. Et évidemment, la grosse info, c'est l'annonce du Samsung Galaxy S4 qui a été faite le 14 mars, donc il y a quelques jours de ça à peine. Et il y a quand même quelque chose d'intéressante à signaler. Il y a l'appareil en lui-même, donc qui fait, comme on le pensait, 5 pouces pour l'écran, avec 1080p en résolution. Donc c'est un écran Super AMOLED d'une très très grande résolution et d'une qualité qui est vraiment appréciable d'après tous les premiers retours. Il devrait sortir au deuxième trimestre. Et on n'a pas de prix encore pour cet appareil. Alors, je vais détailler un petit peu plus l'analyse de l'annonce et du produit lui-même. Mais avant de me lancer là-dedans, je voudrais juste parler de deux petites choses assez marquantes. S'il y a deux choses à retenir sur ce nouveau téléphone, ce sont ces deux-là. D'une part, on a fait pas mal de bruit autour de l'annonce, en tout cas avant l'annonce, il y avait beaucoup de rumeurs. Au final, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est beaucoup plus une évolution qu'une révolution. C'est-à-dire que, je pense que le mot révolution est un petit peu galvaudé, on commence tous à en avoir un petit peu assez. Ce qui est clair, c'est que c'est pas un immense changement par rapport au Galaxy S3. On voit une évolution, ou en tout cas l'entrée dans un cycle qui est sans doute similaire à celle que pratique Intel depuis très longtemps. Je vais vous dire en quoi ça correspond, et Apple depuis un peu moins longtemps. C'est-à-dire les cycles TikTok. Alors c'est pas TikTok, c'est un nom un peu mignon, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a pour une génération un véritable changement d'architecture, en tout cas quand on parle de Intel. J'ai dit Intel, je voulais dire Intel pour ceux qui parlent de prononciation. Et pour le cycle suivant, on a une amélioration, un raffinement de cette architecture, et sans doute une montée en vitesse et en efficacité. Donc Apple le fait depuis un moment avec ses appareils, iPhone 3, 3GS, 4, 4S, 5. A priori, on devrait avoir le 5S bientôt, même s'il faut bien avouer que le 5 à l'époque avait été un petit peu décevant, peut-être même un petit peu plus qu'un petit peu. Et donc là, on a la même chose avec les appareils Samsung. Le 4S est clairement une évolution qui apporte des choses par rapport au 3, au j'ai dit le 4S, je voulais dire le S4, on s'y perd, qui apporte des choses sur le S3, mais qui a laissé les gens un petit peu quand même déçus à la fin de l'annonce, parce qu'il n'y a pas de gros changements, de choses qui me fait dire « Ah, celui-là, c'est vraiment un téléphone qui est très différent du S3 ». Il y a plein de choses qui changent, mais ce sont des choses relativement mineures. Jusqu'à dans l'aspect physique de l'appareil, le design de l'appareil, il est véritablement... c'est une copie conforme du S3. L'écran est plus grand et l'appareil réussit à être plus petit, plus fin et un tout petit peu plus léger. Donc c'est intéressant techniquement, mais il n'y a pas, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Si on fait pas attention, on peut penser que on peut confondre les deux. Donc voilà, cette première chose, c'est il y a vraiment pas de grand changement du S4, du S3 par rapport au S4, voire même le même type de déception que beaucoup de gens ont eu avec l'arrivée de l'iPhone 5, parce qu'il n'était pas assez différent du 4S. C'était amusant de voir qu'à l'époque beaucoup de gens s'en moquaient, beaucoup qui portaient les téléphones Samsung comme étendard. Bon, il faut bien avouer que ça semble en tout cas confirmer le fait qu'on est arrivé à une sorte de palier dans l'industrie du téléphone mobile, du matériel, et que on aura a priori, à moins que ça soit une surprise, pas d'énormes changements dans les mois ou les années à venir. Les révolutions, comme on l'a dit plusieurs fois, regagnent leur place dans ce sens que elles arriveront par surprise au bout d'un certain temps, et c'est pas tous les ans qu'on va s'enthousiasmer comme des fous sur les nouveaux téléphones. Samsung a un petit peu tué ce fantasme, ou en tout cas fini de l'achever. Il n'y aura pas de d'émerveillement et de révolution et de pas de géant à chaque nouvelle génération de téléphones. L'autre chose que je voulais mentionner, très de mettre en avant, c'était le fait qu'il n'y avait quasiment pas de mention d'Android dans cette annonce, dans cet événement. Il y a eu il précise quand même que c'est Android 4.2.2 qui est intégré à ce S4. C'est la dernière version d'Android, donc c'est une bonne chose tout de même. Il y a peu de téléphones qui ont cette version aujourd'hui. Mais Samsung s'est très très clairement mis à côté d'Android. Ils ne l'ont pas mentionné. Si on ne sait pas qu'il y a Android dessus, on s'en rendrait jamais compte. Et c'est un petit peu les craintes qu'on sentait chez Google avec la prédominance de Samsung sur le marché Android, et la possibilité qu'ils finissent par s'en écarter un petit peu, parce que si demain ils sortent un nouvel appareil avec un nouvel OS qui n'est plus Android et qu'ils utilisent tous leurs petits logiciels, tous leurs petits ajouts et qu'ils l'appellent toujours Samsung Galaxy S, finalement, il est possible que les gens se moquent bien qu'il y ait Android ou pas. Bien sûr, il y aura des problèmes d'application, etc., mais c'est pas la question. Samsung gagne en indépendance par rapport à Google. Et ça fait un petit peu peur à Google, on le comprend. Ils vont sans doute répondre avec leur Google X Phone, la nouvelle version de leur téléphone Nexus, bientôt. Mais en tout cas, ça confirme là aussi que Samsung prend ses distances avec Android. Allez, on va dire ça comme ça, Samsung prend ses distances. Donc voilà, ce sont les deux grandes tendances, à mon sens, de cette annonce. Et bon, je dis à mon sens, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, en tout cas. C'est ce qu'on a entendu. Une évolution, clairement, similaire à celle qu'on a vue chez d'autres, et notamment chez Apple, pour ce nouvel appareil, et une prise de distance avec Android. Bon, alors, maintenant parlons quand même des choses qui sont dans cet appareil, ses fonctionnalités. Alors, comme je le disais, c'est un écran de 5 pouces. Il est de très bonne qualité, c'est un super AMOLED. Au niveau du matériel, on a du 1080p avec une résolution de... on a 441 pixels par inch, ce qui est une très grosse densité de pixels. On a quoi d'autre? On a de la 4G, un appareil photo 13 mégapixels au dos et combien c'était, je sais plus, mais il est capable de faire des vidéos en 720p, oui c'est ça, 2 mégapixels à l'avant, donc un appareil quand même correct en façade, donc deux appareils de bonne qualité, 4G comme je le disais. Un capteur infrarouge, même pas un capteur, un émetteur capteur infrarouge, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé comme télécommande. Et ensuite, on a une série de fonctionnalités logicielles que je vais pas énumérer parce qu'il y en a qui sont sympathiques et il y en a qui sont un petit peu anecdotiques, voire gadgets. Il y a du bon et du moins bon dans ces fonctionnalités, dans cet appareil, dans son ensemble. Certaines choses qu'on peut noter, c'est le jeu qu'ils font avec les capacités des appareils photo. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Dual Shot, par exemple, où vous pouvez prendre une photo avec la caméra de l'arrière et intégrer dans cette photo aussi une photo qui est prise avec la caméra de l'avant. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le visage de celui qui prend la photo dans la photo qu'il a prise. Ce qui est clairement un petit peu gadget, mais pourquoi pas? C'est peut-être une fonctionnalité intéressante. Ça pourra servir de manière anecdotique, mais ça pourra servir quand même. Le Drama Shot qui va prendre 100 photos en 4 secondes et choisir les meilleures pour en faire une sorte de composition. L'exemple qui était donné, c'était avec un enfant qui danse. Ça va faire une sorte de multiple... On le voit faire son mouvement de danse avec une photo prise toutes les... 5 photos prises en une seconde. Ou 2 secondes, ça fait un résultat intéressant. Mais bon, c'est pas incroyable, mais c'est quand même des trucs sympathiques. Il y a le fameux air gesture, qui est donc le fait qu'on puisse contrôler l'appareil en passant la main devant et pas en touchant l'écran. Ce que tout le monde dit, c'est que si on a les mains dégueulasses, ça pourra peut-être servir, mais a priori, ça va pas servir beaucoup plus que ça. AirView, si on regarde l'écran, donc la caméra voit qu'on est en train de le regarder, on peut l'incliner pour le faire défiler, pour faire scroller. C'est pas comme on le pensait, le scrolling automatique qui regarde nos yeux et qui voit où on va et qui fait scroller en fonction. C'est simplement qu'on l'incline pour faire défiler. Ça me paraît déjà dans le domaine des choses beaucoup plus gadget. Le Hover, je ne me souviens plus exactement de ce que c'est, mais je l'ai noté, donc ça devait être sympathique. Non, c'était le Air Gesture, en fait, dont je parlais. IR Remote, donc le capteur et émetteur infrarouge. Beaucoup de gens ont réagi sur Twitter et ailleurs. « Ah, mais j'avais déjà mon appareil de telle époque qui faisait déjà ça. » Oui, ok, mais bon, ça n'empêche pas que ça peut être intéressant de l'avoir dans un appareil moderne aujourd'hui. Surtout que avec les fonctionnalités de certaines applications, ça peut amener des choses comme je cherche mon programme sur le téléphone, il y a un guide de télévision, et j'appuie sur un bouton et ça me met sur la bonne chaîne, sur la télé directement. Bon, ce genre de fonctionnalité, là encore, c'est un petit peu du gadget, ça va pas servir à tout le monde, mais... Bon, pourquoi pas? C'est un téléphone qui est censé avoir plein de fonctionnalités. Ça, c'est une fonctionnalité en plus à avoir. Ok. Un autre petit truc qui est sympa, le S-View Cover. C'est-à-dire que c'est une petite pochette, une couverture comme un smart cover d'Apple. Sauf qu'il a une petite fenêtre transparente qui nous permet de voir les notifications. Donc, bon, ça nous permet de pas avoir à soulever la cover ou sortir l'appareil de la cover pour voir les notifications. Encore, là encore, c'est un petit plus sympathique. Il fonctionne avec des gants. On peut toucher l'écran avec des gants, comme c'était le cas avec le Nokia. Je veux pas dire de bêtises. Donc, je crois que c'était le 820, mais je vais pas dire de bêtises. Donc, je ne dis rien. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout sur les fonctionnalités principales. Il y en a quelques autres, mais je pense que là, on a les choses importantes qui ont été annoncées. Comme vous le comprenez, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un bon appareil. Il construit sur les bases du S3, mais il y a quand même... Je pense que le maître mot au moment de l'annonce, de la réception, c'était la déception. Les gens se sont dit, bon, c'est cool, mais personne qui a un S3 va se dire... Bon sang, je veux absolument un S4 tout de suite. Un petit peu comme à l'époque avec l'iPhone, personne qui n'avait un 4S, oui, on s'y perd, s'est dit, oh mon Dieu, je veux immédiatement un 5. Et pourtant, le 5 est un bon appareil, le S4 est un bon appareil aussi. C'est une mise à jour du produit. Le produit principal devient cette nouvelle version. Il n'y a pas de raison d'acheter un autre que celui-là. Si on veut un Samsung Galaxy, bien sûr, puisqu'on a le HTC One et d'autres qui sont intéressants chez la concurrence. Mais je veux dire, si on est un fan de Samsung et qu'on veut leur produit, c'est celui-là qu'il faut acheter aujourd'hui. C'est un prix... sans doute un petit peu élevé. On a parlé d'un téléphone à un prix premium, mais bon, c'est celui-là qui est le porte-étendard de la marque. Deux choses dont je voulais parler aussi au niveau des fonctionnalités. Là, j'ai parlé des petites fonctionnalités. Il y en a deux qui m'ont un petit peu marqué tout de même. Le S Health, qui est une suite logicielle qui vous permet de transformer en fait votre appareil en une sorte de moniteur de santé, un petit peu comme les Fitbit et autres, et Fuelband de Nike, etc. Donc, ils ont intégré ces fonctionnalités à l'appareil. Bien sûr, je suis convaincu que ça pourra marcher avec des appareils externes aussi, mais tout est aussi intégré au téléphone lui-même, ce qui peut vraiment élargir le marché de ce type de produits et créer des utilisations intéressantes. Donc ça, c'était l'une des fonctionnalités qui, moi, personnellement, m'a plu et qui est assez intéressante, je pense, comme ajout, comme nouveauté avec ces téléphones. L'autre chose, c'est que Samsung a présenté aussi un gamepad, une manette de jeu officielle Samsung, qu'ils ont développé et qui, il semblerait, va sortir aussi. Donc, c'est pas le on n'a pas le prix, on n'a pas le nom encore, mais ça a été présenté aussi à cette présentation. Il devrait être disponible autour de cet été, et c'est du Bluetooth, hein, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une manette qui est comparable à une manette de console, et que peut-être que ça créera enfin cette dynamique sur les appareils mobiles qui nous permettra d'avoir, grâce à des vraies manettes entre guillemets, d'avoir des jeux de gamers et non plus seulement des jeux un petit peu passe-temps comme on en a vu jusqu'à maintenant. À part, bien sûr, il y a quelques exceptions, il y a des jeux de gamers sur ces appareils aussi, mais dans l'ensemble, la dynamique est plus dans le jeu passe-temps, le jeu très casual. Donc peut-être que ça provoquera cette étincelle, enfin, qui fera que on aura des manettes sur beaucoup d'appareils et qu'on aura un standard qui va unifier ces efforts. Bon, on verra bien. Une autre chose à signaler qui est importante, c'est que pas mal de ces, ou certaines de ces fonctionnalités arriveront aussi sur le Galaxy S3, ce qui est une très bonne chose, puisque c'est pas souvent le cas avec les appareils Android. On sait que les constructeurs de téléphones Android sont souvent des gens qui font tout leur argent sur le fait de vendre de nouveaux appareils et qui se concentrent sur les ventes de ces nouveaux modèles. C'est-à-dire que une fois qu'un modèle est sorti, il met souvent beaucoup de temps à avoir des mises à jour, que ce soit Android ou des mises à jour d'autres, enfin d'Android lui-même ou de leur propre logiciel qu'ils ont ajouté. Là, Samsung nous dit qu'ils vont mettre à jour le S3 pour lui apporter certaines fonctionnalités du S4. Donc, je pense que ça ajoute à la fidélité que les gens auront à cette marque. Et c'est à mon sens, un bon moyen d'approcher les choses et de construire cette identité Galaxy qui vient et qui a concurrencé et par certains aspects dépassé Apple. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le téléphone lui-même. J'ai quand même passé un petit quart d'heure dessus. Je pense que ça vous fait une image assez claire et de l'ensemble de l'appareil. Mais je voulais aussi, avant de passer à nos news et rumeurs, je voulais aussi dire quelques mots sur la présentation elle-même, sur la keynote. Comment ils l'ont appelé, le Unpacked 2013, épisode 1, ce qui nous laisserait penser qu'il y aura peut-être un épisode 2 ou 3. Et pour vous dire un petit peu mon analyse sur la façon dont ils ont construit le marketing autour de la marque. À vrai dire, non, c'est un petit peu trop vaste ce que je dis là. C'est même pas vraiment le marketing autour de la marque, c'est simplement cette présentation elle-même. Alors, ils l'ont faite à New York, et ils l'ont faite dans un style qui est très assumé Broadway. C'était une sorte de présentation de pièce de théâtre de Broadway. Et c'était construit comme une pièce de théâtre, mais pas simplement avec un type qui était sur scène. Il y avait des acteurs, il y avait des décors, il y avait une sorte de narration pour chaque fonction qui était présentée. Et qui, pour moi, alors parfois c'était un petit peu drôle, il y avait des moments où c'était un petit peu drôle. C'était aussi, j'ai trouvé horriblement sexiste. C'était des trucs qui m'ont mis parfois même un petit peu mal à l'aise. Il y avait une scénette où il y avait des femmes au foyer genre Desperate Housewives qui étaient assez dérangeantes presque. Mais sur la forme, j'ai pas vraiment apprécié. Sur le fond, j'ai trouvé ça... J'ai même pas envie de dire que c'est efficace, mais... D'une part, dans l'introduction, ils ont présenté à peu près toutes les fonctions. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, le président de Samsung est venu, il a dit « Est-ce que ça serait pas génial si votre téléphone pouvait faire ça, 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 ça et ça ?» Et du coup, il avait tout déballé avant même de présenter le téléphone. Il avait dit tout ce à quoi on pouvait s'attendre en 1 minute et demie. Donc, le reste de la présentation, c'était un petit peu l'attente de réentendre ou d'entendre les explications sur ce qu'il avait dit au tout début. Donc la bulle a explosé très vite, la pression est retombée tout de suite et l'anticipation, l'excitation aussi sont retombées tout de suite. Au-delà de ça, moi j'ai trouvé le résultat pas très séduisant. Un petit peu comme la fameuse keynote du CES de Qualcomm dont on vous avait beaucoup parlé. À l'époque, comme étant quelque chose de complètement raté. Je pense qu'on n'était pas à ce niveau-là de ratage dans celle-ci, mais on était clairement dans quelque chose qui a été construit par une agence de communication qui s'est dit « Là, on a une bonne idée et on va faire un truc, ça va être trop génial. » Et on sent les communicants, les gens de la pub qui ont construit ce truc sur un gimmick, sur une idée qu'ils voulaient mettre en place, mais qui ne venait pas, et c'est là que je vais émettre la plus grosse critique de cette présentation, qui ne venait pas du cœur des gens qui ont construit ce téléphone. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ça soit Samsung qui a voulu cette présentation et qui a construit cette présentation. Alors, ça veut pas dire qu'elle aurait été mieux s'ils l'avaient faite eux-mêmes, mais pour moi, c'était pas quelque chose d'honnête et de crédible. C'est en anglais, on dit genuine. C'était pas quelque chose de genuine, c'est-à-dire de vraiment honnête et crédible. Alors, je sais que les présentations que fait Apple énervent souvent prodigieusement ceux qui ne sont pas clients de la marque et qui marchent pas dans leur machine marketing, qui en est une aussi, mais pour moi, ce que représente Apple, c'est, ou en tout cas la manière dont ils présentent leurs produits, il y a une personne sur scène qui vous fait passer quelques slides et qui fait passer sa conviction et son énergie dans ce qu'il vous dit et dans le produit lui-même. Là, il y avait trop d'artifices, de Hollywood, de jeux, de cirque, c'était presque un cirque. Et pour moi, ça semblait pas, ça m'a pas touché, ça m'a pas parlé. Donc bon, peut-être que vous, ça vous aura parlé. À mon avis, vu les réactions que j'ai vues sur Twitter, c'était pas une réussite avec le public technophile. J'ai beaucoup entendu que c'est fait pour ça parce que ils parlent à un plus large public justement et que eux, ça leur parle. Franchement, j'y crois pas. C'est possible hein, que je me trompe, mais j'y crois pas. Pour moi, c'est simplement très maladroit et ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, il y avait des moments, comme je vous disais, où j'ai grimacé horriblement parce que ça m'a mis mal à l'aise, quoi, tellement c'était soit sexiste, soit pas drôle, soit... Bon, la production était réussie pour ce qu'il voulait faire, mais pour moi, ça m'a pas du tout rapproché de la marque Samsung pour ce qui est de la présentation elle-même. Hein. Là, je parle de la présentation. La raison pour laquelle je parle souvent des présentations, c'est parce que... comme sur beaucoup d'autres choses, n'en déplaise à ceux qui sont agacés par l'omniprésence d'Apple, Apple a mis une sorte de barre de standard pour les présentations, pour le marketing. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit à peu près partout aujourd'hui les pubs qui sont faites souvent sur un fond blanc avec une musique. On a l'impression que c'est un xylophone un petit peu joyeux et tout le monde a repris ses codes à tel point que ça en devient écœurant aujourd'hui. Je pense que plus personne n'en peut plus de ces codes-là. Mais pour les présentations aussi, avec la personnalité un petit peu hypnotisante de Steve Jobs, ils ont mis cette barre tellement à un niveau tel que tout le monde attend ces présentations comme des choses à passer en revue elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est important pour faire passer le message et pour montrer au monde. C'est l'une des rares occasions où les sociétés peuvent montrer au monde ce qu'elles sont vraiment. Et là, donc c'est pour ça qu'on parle des présentations Microsoft, Qualcomm, Intel et Nokia par exemple. Hein, c'est des moments importants dans la vie d'une marque. Et bon, là, pour moi, c'est plus que tombé à plat, ça m'a dérangé. Bref, on peut la trouver sur Internet. Allez la regarder par vous-même ou en tout cas en regarder des extraits. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez et me dire si j'ai vraiment mal analysé la chose ou si c'est parce que je suis totalement subjectif que j'ai pas apprécié cette présentation. Bon, voilà pour cette grosse partie sur le Galaxy S4 et maintenant on va passer au message de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez donc, c'est Pritel, le MVNO qui est sur le réseau de SFR et vous connaissez tous leur forfait sans...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sans engagement modulo pour les particuliers, mais vous ne savez peut-être pas qu'ils ont d'excellentes offres pour les pros également. C'est vrai que les sans engagement et le modulo devient très pertinent pour une entreprise. Par exemple, si vous êtes en congé, en maladie ou si vous avez un gros turnover de vos employés qui font que les consommations mobiles de vos collaborateurs varient de mois en mois, vous serez peut-être intéressé par un forfait modulo pro. C'est un forfait qui s'ajuste toujours à votre activité. Par exemple, vous avez 2 heures et SMS illimité pour 5 € et jusqu'à 35 € pour les appels illimités vers plus de 50 pays et 4 gigas de data. Vous avez également bien sûr les services réservés aux pros comme la Hotline Pro, les services de facturation, etc., etc. Le deuxième forfait dont je veux vous parler, c'est le Modulo Tab Pro qui est très adapté à des tablettes. Je dis à des tablettes, mais ça peut être une, en fait, une tablette ou plusieurs devices. C'est-à-dire que pour 5 €, vous avez 100 mégas utilisables de data. Et pour 30 €, vous avez 3 gigas, mais vous avez aussi l'option d'avoir un module Wi-Fi qui va vous permettre, en fait, de connecter plusieurs appareils différents, téléphone, tablette, peut-être même un ordinateur, pourquoi pas, sur ce même forfait. Donc, quand vous en consommez peu entre 2 voyages, par exemple, eh ben, vous ne payez pas beaucoup. Si vous en consommez beaucoup, eh bien vous allez payer un petit peu plus, mais ça sera réparti sur vos différents devices avec cette option de module Wi-Fi. C'est aussi utilisable sans module Wi-Fi évidemment. Et enfin, il y a le Pritel Box qui est une box haut débit, 25 mégabits seconde, qui s'adapte également, encore une fois, à vos votre consommation. Donc vous avez internet d'un côté et le téléphone de l'autre. Par exemple, internet illimité et une heure d'appel, ça va faire 25 €. Si vous vous faites des appels illimités, si vous faites beaucoup d'appels, toujours avec internet illimité, on monte à 35 € et ça s'adapte là encore à votre consommation. Donc ce sont des forfaits qui vous intéresseront sans doute si vous êtes un professionnel. On vous invite à aller les regarder et voir les détails sur pritel.fr et vous pourrez donc avoir tous les détails et soutenir NoWatch en même temps. Et on vous remercie, vous et Pritel. On continue donc avec la suite des événements, les news et rumeurs, que je commence avec une annonce mémorable, le fait que c'est Yanoush qui a gagné le t-shirt dont nous parlions à l'épisode précédent. Nous vous avions proposé de nous dire pourquoi vous pensiez que les choses étaient pas plus très excitantes, et notamment au CES. Au Mobile World Congress, je me perds avec tous ces événements. Vous avez été assez nombreux à nous répondre, donc merci beaucoup. Yanoush gagne parce que c'est le premier qui m'a donné en fait la raison pour laquelle je pense effectivement tout ça n'est plus très excitant aujourd'hui. Le fait que les grosses annonces, les sorties des blockbusters comme il le dit, se font en dehors du MWC, du Mobile World Congress, c'est-à-dire que des produits comme le Galaxy S4 ou ou l'iPhone ou d'autres encore, ou les appareils Google par exemple, sont annoncés dans leur propre événement. On en parlait avant le message du sponsor, c'est des moments très importants dans la vie des marques et c'est un moment où ils peuvent faire un impact. Et donc, dans ces grands salons, on se retrouve avec des trucs un petit peu plus tournés vers l'industrie et des annonces qui ne sont pas des gros morceaux. Donc, vous avez été plusieurs à en parler à la suite de Yanoush dans les commentaires de l'émission, et c'est quelque chose, je crois, qu'on avait évoqué à demi-mot dans l'émission elle-même, mais Yanoush a été le premier à le mentionner dans les commentaires et il a parfaitement argumenté la chose, donc voilà, c'était une réflexion intéressante et c'est donc lui qui gagne ce fameux t-shirt. Merci à lui d'avoir participé, et doublement merci parce qu'il m'a dit dans son email qu'il était un fan de la première heure d'Azeroth.fr, ce que je ne savais pas au début, mais ça fait toujours plaisir de voir des anciens qui sont toujours en train de m'écouter. Donc j'en profite pour passer un gros bisou à tous ceux qui m'écoutent depuis le début. Donc les news et rumeurs, quelques petites choses. Le nouveau Facebook feed, vous en avez entendu parler très certainement en long, en large et en travers partout sur internet. Facebook revoit son flux. Donc la manière dont vous regardez votre page Facebook, hein, les informations de vos contacts qui sont affichées sur votre flux, ils le transforment en ce qu'ils appellent un journal personnalisé. Ils font beaucoup plus de place au visuel. Les photos, les vidéos sont plus grosses. Il y a énormément d'éditorial, de magazine ou de flipboard même qui est fait dans ce nouveau flux. Entre parenthèses, il n'est pas encore disponible, hein. Il n'est pas disponible pour tout le monde, il est même disponible pour presque personne. On peut s'inscrire pour y avoir accès, mais ça va commencer à arriver dans les jours et les semaines à venir. On y retrouve beaucoup de Google Plus dans ce nouveau flux. C'est le même, la même tendance et on se rend compte que, là encore, Facebook et Mark Zuckerberg réussissent à intégrer les choses qui fonctionnent ailleurs avant que ces choses-là ne donnent aux concurrents un avantage qui deviendrait problématique. Parce que Google+, même s'il a d'énormes qualités et que je l'aime beaucoup, il reste assez mineur par rapport à Facebook. Et donc Facebook a là encore une fois, comme ils l'ont souvent fait, pris ce qui fonctionnait chez Google+, et l'a intégré à Facebook. Bon, là, c'est juste avoir de plus grandes images. Je dis Google+, parce que c'est un réseau social, mais c'est vrai que d'une manière générale, sur le web dans son ensemble, on voit de plus en plus de prédominance de ces aspects très visuels. Donc il est un petit peu normal que Facebook aille dans le même sens. Ils ont fait d'autres choses aussi. comme le fait de séparer les différents flux. Vous aurez aujourd'hui, enfin une fois que vous aurez ce nouveau flux, un flux avec par ordre chronologique ce que tout ce qu'ont dit vos amis. Moi, je pense que beaucoup de gens vont se rendre compte que ça fait beaucoup trop de choses et donc ils utiliseront le flux sélectionné par Facebook, mais au moins, vous aurez l'option de voir tout ce que disent vos amis, comme c'était le cas il y a longtemps avant que Facebook ne mette en place cet algorithme qui sélectionne les objets, les posts les plus, les updates, les mises à jour, on va y arriver, les plus importantes. Et il y a aussi le fait que deux conséquences, deux analyses. La première, c'est que ça va être très important pour la pub, parce que Facebook va pouvoir proposer aux annonceurs des produits beaucoup plus attrayants, qui vont avoir donc cet aspect visuel, qui vont profiter eux aussi cet aspect visuel. Et une autre chose, c'est que ils ont ouvert leurs portes en grand aux éditeurs tiers, c'est-à-dire que ils vont intégrer des visuels de plein d'éditeurs tiers facilement dans les mises à jour pour rendre le flux plus attrayant. Et c'est intéressant pour moi parce que ça vient à un moment où Twitter, qui est l'autre grand réseau social, ferme un petit peu ses portes et les ferme de plus en plus. On sait qu'on ne peut plus, par exemple, voir une photo de Instagram directement dans le flux de Twitter. Et ils ont fermé les API, donc la possibilité pour d'autres applications, des applications externes, d'utiliser certaines de leurs données et de facilement créer des applications tierces pour Twitter. Et bien, dans ce même temps, Facebook ouvre les portes. Donc pour moi, c'est des mouvements importants et cette nouvelle ouverture de Facebook risque de devoir pousser Twitter à reconsidérer les choses et peut-être à faire les choses de manière moins drastique qu'ils ne l'ont fait pendant ces derniers mois et peut-être revenir vers un petit peu plus d'ouverture. Moi, je le souhaite, mais on verra si la concurrence, qui est toujours bonne, peut pousser Twitter à faire ça. Bon, j'oublie certainement des choses dans la description du nouveau flux Facebook, mais vous le verrez certainement par vous-même quand vous l'obtiendrez. J'imagine que ça ne devrait plus trop tarder. Et je bois un petit peu d'eau pour me dessécher la gorge, non, me rafraîchir, non, me m'hydrater la gorge. Voilà, hop. Et donc on continue. Le Conseil national du numérique officialise la loi sur la neutralité du net. Alors c'est un rapport qu'a rendu le Conseil national du numérique qui préconise une loi pour faire respecter le principe de neutralité du net. Je vais pas me relancer dans la description de ce qu'est la neutralité du net, je vous saoule suffisamment avec ça, mais pour moi c'est quelque chose d'incroyablement important, de vital pour le fonctionnement du net. Donc je suis très heureux que le Conseil national du numérique se range de cet avis. Surtout que généralement on a tendance à constater que les instances gouvernementales sont plutôt influencé par les industriels et souvent les industriels de la propriété intellectuelle et qui veulent plus de sélection des services qu'on a auxquels on a accès sur Internet que qu'ils ne se rangent aux avis des gens qui font partie de l'industrie du net et aux gens qui sont à l'origine et à la fondation du net. Donc là, le Conseil national du numérique se range du côté des gens qui sont au cœur d'Internet. Donc à mon avis, c'est une bonne chose. J'espère que ça donnera quelque chose d'officiel. On passe vers les petites news vraiment beaucoup plus rapides. La première, c'est que on a eu une présentation il y a quelque temps d'une puce qui s'appelle la puce Freescale KL02 qui fait 2 mm sur 2. Alors c'est une puce entièrement c'est un système on a chip, ce qu'on appelle c'est une puce ARM, donc du même type que celle qui équipe nos appareils mobiles, qu'ils soient iPhone, Android, etc. Et c'est une puce de 2 mm sur 2 qui a 32K de mémoire flash, 4K de RAM, c'est un processeur 32 bits. Elle a tout ce qu'il faut pour faire tourner un ordinateur de petite taille. Et là où c'est intéressant, c'est que les utilisations de ce type de produit, bien sûr, on pense à des choses du genre Fitbit, les appareils médicaux, etc. Mais là, ils pourraient aussi, ils ont donné l'exemple de médicaments qui serait avalé avec une puce à l'intérieur, une puce comme ça à l'intérieur, de 2 mm sur 2, c'est vraiment pas grand-chose, donc ça pourrait s'avaler et contrôler, par exemple, la libération des médicaments dans le corps aux intervalles où il faut, etc., etc. Donc, cette idée d'ordinateur à avaler, en quelque sorte, je l'ai trouvée assez amusante, donc je voulais en parler. Vous pourriez nous dire, par exemple, ce que vous pourrez imaginer faire avec des puces de cette taille-là. J'ai un petit peu peur de poser la question, mais si vous avez des idées marrantes, n'hésitez pas à venir nous en parler dans les commentaires. Microsoft a décidé de faire marche arrière sur le transfert des droits pour Office 2013. On en avait parlé la dernière fois. Finalement, les versions en boîte achetées dans les magasins de Office 2013 pourront être transférées d'un ordinateur à l'autre, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé à l'origine. Donc on revient à un modèle qui était celui des versions précédentes d'Office. Google serait en train de préparer deux services de musique plutôt qu'un. Un qui serait lié à YouTube et un qui serait lié à l'Android Play Store. Alors, des deux côtés, ça serait cohérent d'avoir un service de musique. YouTube, bien sûr, c'est l'une des sources principales de musique pour les gens aujourd'hui. Souvent, quand on veut écouter un morceau, on va aller chercher sur YouTube et récupérer le clip ou écouter le morceau comme ça. Sur Android, bien sûr, un service mobile. Sur le Play Store, on peut acheter des morceaux de musique sur le Play Store, et là on parlerait d'un service de streaming. Donc bon, on n'a pas tous les détails, mais Google travaillerait non pas sur un mais deux services de musique. Là on en saura bien sûr un petit peu plus dans pas trop longtemps. Microsoft frappé d'une amende de 561 millions d'euros par Bruxelles pour les histoires de manquement aux devoirs qui avaient déjà été édicté par l'Union européenne pour son OS. Il y avait une histoire de sélection du navigateur. Bon, on va pas en parler pendant deux heures. Google et le MPEG LA trouvent un accord sur le VP8. A priori, c'est bien le cas. Le VP8, je ne sais pas si vous en venez, c'est ce standard qu'a voulu lancer Google et derrière lequel était aussi Firefox, si je ne m'abuse, et Mozilla. C'est un standard vidéo. Et MPEG LA, qui est l'organisation qui gère également les droits du H264 et du MPEG, comme son nom l'indique, disait que certains brevets qui leur appartiennent étaient utilisés dans le VP8. Là, MPEG LA a accepté de ne pas poursuivre les gens qui utilisent le VP8. Ils disent qu'il y a bien des brevets qui sont utilisés, mais ils ont accepté de ne poursuivre personne. Donc, ça pourra peut-être enfin faire décoller le VP8. Le problème, c'est que le H264 est déjà quand même très bien installé. On n'est plus il y a deux ans quand cette idée avait été lancée, et le H264 est maintenant majoritaire, je dirais. En plus, le H265 arrive, et le VP9 qui serait concurrent du H265, je ne sais pas s'il est couvert par cet accord également. Le H265, on en avait parlé la dernière fois à propos de la 4K et de ce genre de choses, c'est beaucoup plus, ça fait des fichiers de taille beaucoup plus petite, avec qualité équivalente, et avec des fichiers de même taille, on peut avoir, ou plus gros, on peut avoir des fichiers de qualité et plus élevés, ou alors même des fichiers de type de résolution 4K, et peut-être même plus, pourquoi pas. Donc voilà, c'était tout pour les news et rumeurs. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le cœur de l'émission. Et je voulais tout de même parler un tout petit peu, pendant une minute, d'un certain nombre de commentaires qui ont été faits sur l'épisode précédent à propos de l'anglais. Et bon, je vais parler de l'industrie tech, du rendez-vous tech, et puis de philosophie presque en général. Donc si vous n'aimez pas m'entendre divaguer, c'est peut-être le moment d'arrêter d'écouter l'épisode, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai été surpris, bon pas beaucoup, mais il y a quelques personnes qui sont venues dire sur les commentaires de l'émission, oui c'est vrai, l'anglais c'est un petit peu saoulant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un commentaire sur iTunes, d'ailleurs n'hésitez pas à aller laisser des commentaires sur iTunes pour nous dire, pour dire aux gens que vous aimez l'émission évidemment. On avait un commentaire qui disait que l'anglais était un petit peu, c'était un petit peu fatigant d'avoir de l'anglais toujours dans l'épisode. Il y a quelques personnes, je dirais 3-4, qui sont venues sur les commentaires de l'émission pour dire c'est vrai, l'anglais c'est fatigant. Et ça m'a amené à réfléchir à la nature de la, du rapport qu'entretient la France avec les langues, en général. Il y avait aussi un article qui a été édité cette semaine sur le fait que les Français sont parmi les moins bons en Europe pour ce qui est de la langue anglaise. C'est-à-dire que les Français sont parmi les moins bons parleurs d'anglais, et là je parle bien la France en disant ça, en Europe. Les Français ne maîtrisent pas l'anglais, et ou en tout cas moins bien que les autres. Et comment dire, il y a une sorte de presque de fierté, une sorte de gauloiserie, de cocardiser à ne pas parler anglais. Et pour moi, bon, évidemment, hein, je me répète et je le dis à chaque fois, on essaye vraiment de faire le maximum pour parler vraiment en français, pour traduire les termes, pour expliquer même des termes français qui sont un peu compliqués pour les gens qui ne connaissent pas bien l'industrie tech. J'essaye toujours de faire un gros effort pour tout expliquer, que ce soit en anglais ou en français. Et on fait des efforts pour trouver des termes français et pas trop utiliser de termes anglais, même si on navigue dans des sphères anglaises souvent pour vous apporter ces news vraiment fraîches qui viennent du cœur de cette industrie qu'on aime. Mais donc, mettant cette info à part, pour moi, cette sorte de fierté de ne pas parler anglais, est vraiment mal placée. Le fait de parler une autre langue est évidemment une richesse, et ça, je veux dire, c'est vrai pour l'anglais, c'est vrai pour n'importe quelle autre langue. Et puis surtout, c'est pas une marque de fierté que de ne pas parler une langue. Partout où je vais en Europe, que ce soit en Allemagne, dans les pays du Nord, même dans des pays où on s'y attendrait pas forcément, les gens généralement parlent assez bien anglais. Et on apprend l'anglais à l'école, on l'apprend. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles les Français en général parlent pas super bien anglais, mais il n'empêche, généralement, les gens parlent bien anglais, et en tout cas mieux qu'en France, et c'est une richesse, c'est une bonne chose, et je comprends pas pourquoi on a cette sorte de ton un petit peu, pourquoi on accuse un petit peu les gens qui parlent bien anglais, soit d'être un peu ridicule, et on fait « Ah, one again, oh, tu parles anglais, c'est trop fort », machin. Ben non, mais c'est bien de bien parler anglais. Au contraire, non seulement ça permet de communiquer avec les gens qui parlent pas notre langue, parce que l'anglais reste la langue internationale, c'est pas mal, mais en plus, encore une fois, ça permet d'avoir accès à des connaissances auxquelles on n'aurait pas accès autrement. Alors, je parle de l'anglais, mais c'est vrai pour toutes les langues. Hein, je veux dire, le fait de parler une autre langue, c'est pas quelque chose, pour moi, qui doit être tourné en ridicule ou dont on doit se moquer. Je suis très, très fidèle à cette idée que la langue originale est importante. Et je regarde souvent, enfin toujours mes films que je regarde ou les séries en anglais dans leur langue originale, mais c'est pas le cas uniquement pour l'anglais. Et c'est ça qui est important de signaler aussi. Quand je regarde des films ou des séries ou n'importe quoi dans une autre langue, si j'en ai la possibilité, s'ils sont originaires d'une autre langue, d'un autre pays, je vais essayer de les regarder dans leur version originale. Alors avec les sous-titres, bien sûr, mais dans leur version originale pour avoir la véritable intention d'origine. Et c'est un petit peu la même chose dans l'industrie tech. Pour vraiment savoir de quoi il en retourne, il faut le comprendre avant la traduction. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans le Rendez-vous Tech. Nous, on vous l'explique en français, évidemment, hein, parce que c'est d'ici qu'on est, mais si on se fie ou si on se base sur des choses dans une autre langue, on a déjà une étape de traduction qui endommage le message. La traduction n'est jamais à 100%. Et j'ajoute encore une chose. Bon, je parle très très sérieusement de ce problème. Rassurez-vous, je peux dormir la nuit. Hein, ça me préoccupe pas tant que ça. Mais C'est pas uniquement pour l'anglais, hein, pour certains qui d'entre vous, si vous me suivez un petit peu régulièrement, vous savez que je suis tout aussi intransigeant sur le français lui-même. Quand des gens écrivent mal, confondent un participe passé et un infinitif, ou écrivent C avec CES alors que ça serait SES, ça me fait sortir de mes gonds. C'est quelque chose, une chose à laquelle je suis très attaché, même en français. Mais pour cette question de l'anglais, ça va même encore plus, un petit peu plus loin. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi, et je l'ai répété plusieurs fois, mais pourquoi on est d'une part fier de ne pas parler anglais, et d'autre part pourquoi on tourne en ridicule ces gens qui parlent anglais. Pour moi, c'est une fierté. C'est des gens qui font un effort, qui travaillent, qui ont mis beaucoup d'énergie dans cette capacité et qui en retire quelque chose. Donc bon, je sais évidemment que on n'est pas en train de pointer du doigt et de rire vraiment des gens qui parlent anglais, hein, c'est pas ce sujet, mais ça m'est revenu un petit peu, d'une part pour cet article qui disait que les Français parlaient tellement mal anglais que ça en était un petit peu ridicule. On est en bas de la liste des pays européens, c'est vraiment dommage. Et puis surtout, ces commentaires qui disent « oui, l'anglais c'est saoulant ». Non, pour moi, c'est pas saoulant. Au contraire, c'est quelque chose de bien. Alors, il faut évidemment faire tout ce qu'on peut pour ne pas transformer une émission française en émission anglaise. Mais je pense que quand on accepte que cette source de l'information de l'industrie tech est dans la Silicon Valley et aux États-Unis, eh ben, il faut aussi accepter que quand on parle de ça, on est dans un univers qui est éminemment anglophone, et donc c'est quelque chose de positif d'avoir cette influence anglophone, tout en restant, en gardant un respect immense pour la langue française, en faisant tout ce qu'on peut pour... Bon, je parle français, hein, je suis français, je viens d'ici, mais bref, voilà, c'était pour dire quelques mots sur cette chose qui m'a un petit peu touché. J'ai été un petit peu... un petit peu déçu, je dirais, quand je me suis rendu compte que vraiment c'était pas juste des gens qui disaient oh l'anglais c'est un petit peu chiant comme ça en rigolant, quand je me suis rendu compte que oui, il y a une vraie un vrai mépris de l'anglais en France. Donc bon, c'est pas un mépris tellement profond non plus, on en survit tous, mais voilà, c'est mon petit message pour dire non, l'anglais et toutes les langues, c'est bien. Et quand on parle plusieurs langues, on a une vie et une vision et une culture plus riche, et on peut communiquer avec plus de monde, et c'est une bonne chose. Donc, je vous encourage tous à aller à la source, à lire des magazines comme des magazines sur le web comme The Verge, comme Engadget, comme beaucoup d'autres, à écouter des émissions en anglais aussi. C'est bien d'aller à la source quand on veut être bien informé. Si vous voulez aller plus loin, c'est comme ça qu'il faut faire. Aller plus loin dans votre connaissance de la tech. Et bien sûr, il y a énormément de ressources en France aussi qui sont d'une immense qualité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Il fait à peu près la moitié d'un épisode normal. Je pense que c'est assez respectable. Comme je vous le disais, ça sera un épisode de milieu entre deux épisodes qui n'existent pas. Donc, en gros, il y en a un qui a sauté et j'aurais mis l'autre entre ceux qui sont au milieu. Je n'arrive même pas à m'y retrouver moi-même. Donc... ça veut dire que on aura eu un seul épisode au mois de mars à peu près au lieu de deux. Voilà, c'est un petit peu plus clair comme ça. Je vous donne donc rendez-vous non pas dans deux mais dans trois semaines pour le prochain épisode qui sera l'épisode numéro 108. Donc j'espère que d'ici là vous aurez passé trois excellentes semaines, que vous serez toujours en forme, et si entre-temps vous voulez un petit peu plus de podcasterie, évidemment vous pouvez aller sur nowatch.net pour trouver des émissions super sympas. Je crois que si tout va bien, je devrais faire un épisode de season 1 sur l'émission la série Firefly dont je suis un immense fan. Donc jetez un coup d'œil par là-bas si ça vous intéresse. Et puis bien sûr, il y a d'autres émissions de grande qualité sur nowatch.net. Je vous encourage à aller les suivre. Si vous voulez me suivre, c'est NotPatrick sur Twitter. C'est également sur Facebook et Google+. Vous pourrez m'y trouver facilement. D'ici là, je vous souhaite donc, comme je le disais, 3 excellentes semaines. Je vous fais de grosses bises et j'attends vos commentaires sur les notes de l'émission, sur le blog de l'émission sur nowatch.net. Ciao à tous, à très vite. Bye bye.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.